Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, le lien qui unit en quelque sorte l'épître de ce jour et l'Évangile, c'est la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette charité qui est louée et exaltée par saint Paul dans l'épître et que nous voyons en œuvre, en acte dans l'Évangile. Nous voyons en acte de deux manières, par le miracle qu'accomplit notre Seigneur Jésus-Christ, cette guérison de l'hydropique, une guérison miraculeuse, et aussi par sa prédication, par la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est vrai que contempler encore et encore le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, tout brûlant d'amour, tout brûlant de charité pour nous, c'est l'une des pratiques les plus nécessaires et les plus utiles pour notre vie intérieure. C'est l'un des objets principaux de l'année liturgique, de la liturgie d'Église, disons, les principaux mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont célébrés chaque année, et puis aussi différents passages de l'Évangile qui, à chaque fois, nous montrent cette bonté de notre Seigneur qui s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Et cette méditation de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ est également l'un des aspects les plus importants du chapelet. Le chapelet, ce n'est pas simplement des « Je vous salue Marie » qu'on dit d'une manière un peu machinale et sans trop y penser. C'est avant tout une méditation des 15 mystères du rosaire. Et ces 15 mystères du rosaire nous font voir par 15 facettes, d'une manière générale, de 15 manières différentes, cette bonté de notre Seigneur, et aussi de Notre-Dame, bien sûr. Et pourquoi est-ce si important, cette méditation? D'abord pour aimer notre Seigneur Jésus-Christ. On n'aime que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas notre Seigneur, on n'aimera pas. On voit bien, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas notre Seigneur, ou connaissent pas réellement, pas vraiment, et alors ils ne l'aiment pas. Alors que pourtant, tout est aimable par notre Seigneur. Si on le connaît, plus on le connaît, plus on l'aime. Et aussi, c'est particulièrement important aujourd'hui, sans doute, parce que peut-être pourrait-on avoir une certaine impression, une fausse impression, que Dieu nous néglige, d'une certaine manière, dans cette crise dans l'Église. Et alors, il y aurait un risque de se décourager. On se demande pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas, pourquoi est-ce qu'il ne nous sauve pas, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas davantage. Eh bien, le remède contre ce découragement, c'est de contempler cette charité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on voit dans l'Église. Bien sûr, cette bonté divine, cette bonté de notre Seigneur, se montre de différentes manières. Ici, on le voit par les guérisons, par sa prédication. Mais parfois, notre Seigneur montre sa bonté en reprenant. Bon, d'ailleurs, on le voit un peu dans l'Évangile, il reprend quand même les pharisiens, leur fausse notion du sabbat. Et parfois même, il me reprend d'une manière très véhémente un saint Paul, il appelle même un saint Pierre, il appelle même un Satan scandaleux, parce qu'il ne comprend pas sa passion. La bonté de notre Seigneur se montre aujourd'hui en nous purifiant. Mais toujours, c'est la charité de notre Seigneur. Et si on veut comprendre cette épreuve que l'Église subit, il faut le contempler. Avant tout, entre autres choses, bien sûr, mais avant tout, dans cette charité de Dieu qui nous purifie, qui purifie son Église. Et la deuxième raison pour laquelle il faut contempler cette bonté de notre Seigneur, c'est bien sûr pour l'imiter. Notre Seigneur est le grand modèle. C'est un Louis-Marie Grignon de Montfort qui dit que nous devons peindre en nous comme les traits de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons reproduire dans notre âme ces vertus du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour s'y prendre, il faut s'y prendre un peu comme un peintre qui reproduit un modèle. Quand un peintre décide de reproduire une image, une peinture, bien il la sans cesse devant lui et il donne un coup de pinceau, puis il regarde de nouveau ce modèle qu'il veut reproduire, il donne un nouveau coup de pinceau, et ainsi de suite. Il parle sans cesse de sa propre production qu'il est en train de faire, et il regarde ensuite le modèle, et ainsi vice-versa. C'est un peu la même chose dans notre vie surnaturelle. Nous devons sans cesse regarder notre Seigneur par l'oraison quotidienne, par le chapelet quotidien, et ensuite chercher à le reproduire par nos actes de la journée. Et sans cesse, il y a ce va-et-vient, et c'est cela la vie spirituelle. C'est comme ça que nous progressons. Alors voyons rapidement ces deux points. Ces miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il signifie aussi sa prédication. D'abord, ces miracles, Saint-Pierre résume toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans ces deux mots. Transivit bene facendo. Il a passé en faisant le bien. C'est très impressionnant quand on médite tous les évangiles, quand on lit d'une manière cursive les quatre évangiles, on voit sans cesse cette bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'exerce de manière différente. Dans le dernier évangile, dans l'évangile de dimanche dernier, en prédication, le prédicateur a parlé de cette compassion du cœur humain de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est laissé émouvoir, qui a voulu s'émouvoir sur ce fils de la veuve de Naïm qui était décédé. Et ensuite, il l'a ressuscité. Et on voit le même détail dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est Saint Cyril, père de l'Église, qui remarque que l'homme hydropique n'a même pas demandé à notre Seigneur sa guérison. Il s'est contenté de se tenir devant notre Seigneur Jésus-Christ. Sans doute, dit Saint Cyril, parce que cet homme, ce malade, avait peur des pharisiens, avait peur de leurs critiques s'il leur demandait un jour de sabbat une guérison miraculeuse. Alors, il se tenait tout simplement devant notre Seigneur Jésus-Christ dans le but d'émouvoir son cœur. Parce qu'il savait bien, parce que tous savaient combien notre Seigneur Jésus-Christ est compatissant. Et alors, le simple fait de se tenir devant notre Seigneur était déjà une demande silencieuse, d'une certaine manière. Et effectivement, cet homme ne s'est pas trompé. Notre Seigneur a eu pitié de lui et il l'a guéri. Il l'a guéri miraculeusement, même en affrontant tous les pharisiens qui étaient présents. Et notre Seigneur a également pitié de nous, de chacun d'entre nous. Il nous voit du haut du ciel. Il voit chacun d'entre nous. Il voit chacune de nos misères. Et il a pitié. Il a pitié de nos souffrances physiques, de nos souffrances morales aussi, de toutes les tentations que nous subissons. Et il faut bien nous dire que s'il permet toutes ces difficultés que nous traversons, c'est par bonté, c'est par amour pour nous, c'est pour nous faire progresser bien dans la vraie vie spirituelle, en nous unissant à sa propre croix. En toutes ces difficultés, à chacune des difficultés, notre Seigneur nous donne ses grâces. Évidemment, c'est facile de se le dire quand tout va bien, quand tout est facile, quand on lit les évangiles, c'est facile. Mais à l'heure de l'épreuve, et surtout quand ces épreuves durent très longtemps, quand on subit de longues injustices, quand on subit de longues souffrances, on a bien du mal, et on le voit bien, on a bien du mal à nous persuader que tout cela nous vient de la bonté divine. Et alors le remède, c'est de contempler un peu tous les jours cette bonté de Dieu et de cette sorte-là, nous serons armés, d'une certaine manière, nous serons prêts à accueillir les épreuves, à les voir d'une manière vraiment surnaturelle, à voir la bonté, la main de Dieu derrière ces épreuves qui nous attirent à lui. On pourrait se faire une objection en nous disant que l'on ne voit plus vraiment de miracles aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais presque plus. Est-ce qu'il faudrait dire alors que notre Seigneur aurait cessé d'avoir pitié de nous? C'est Saint Augustin qui nous répond que les miracles ne font qu'attirer notre attention sur la bonté divine qui, elle, s'exerce tous les jours, à tout moment, mais par des lois ordinaires, d'une manière ordinaire. Il dit, Saint Augustin, qu'un mort reparaisse et ressuscite, tout le monde s'étonne. Des milliers d'hommes naissent tous les jours et personne ne s'en occupe. Pourtant, à considérer les choses avec attention, c'est une plus grande merveille de donner la vie à qui ne l'avait pas que de la rendre à qui l'avait précédemment. Et effectivement, la bonté divine, la bonté de notre Seigneur, comme Dieu, s'exerce sur nous en nous donnant la vie, en nous soutenant dans l'être. Si Dieu cessait de nous soutenir dans l'être, nous disparaîtrons aussi nous, aussitôt, en nous donnant tous les biens, tous les jours dont nous utilisons, l'air que nous respirons, cela a été créé par Dieu. La nourriture que nous mangeons, cela nous vient de Dieu, la grâce que nous recevons à chaque instant. Et justement, les pères de l'Église font remarquer également que ces guérisons miraculeuses sont bien réelles, mais en même temps sont un signe de ce que Dieu opère dans nos âmes sans cesse, ce que notre Seigneur fait en nous pour nous guérir spirituellement de nos défauts. Cet hydropique, par exemple, selon saint Grégoire le Grand, représente l'avarice, les avares, parce que c'est une maladie qui donne une soif insatiable à celui qui en est frappé. L'hydropique peut bien boire, et mais plus il boit, et plus il a soif. L'avarice est un peu la même chose. Plus la personne qui est avare possède des richesses, et plus elle en désire. C'est quelque chose qui est insatiable. Alors Dieu guérit. Dieu guérit nos blessures spirituelles par sa grâce. Et notons bien que, comme le dit saint Thomas, si on n'avait pas la grâce, si Dieu ne nous soutenait de sa grâce, on ne pourrait passer longtemps sans tomber dans un péché mortel. Et si nous réussissons à résister aux tentations, à rester dans l'état de grâce, cela vient de ce que notre Seigneur sans cesse s'occupe de nous, et que sans cesse il nous donne la grâce. Et cela est vrai même quand on ne s'en rend pas compte. Sainte Catherine de Sienne, pendant plusieurs jours, à un moment dans sa vie, a été affligée de terribles tentations. De terribles tentations contre la pureté, et aussi de terribles tentations de découragement. Le démon lui apparaissait visiblement et cherchait à la faire tomber. Cela pendant plusieurs jours de suite. Et surtout, Sainte Catherine de Sienne avait l'impression d'avoir été abandonnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'habituellement, surtout à cette période de sa vie, notre Seigneur lui apparaissait régulièrement. Et là, au moment de l'épreuve, plus rien. Elle a bien beau l'invoquer, elle ne sent rien. Alors, la sainte était affligée avec une profonde tristesse. Et malgré cela, bien sûr, parce qu'elle était une sainte, elle résistait courageusement. Et au bout de ces quelques jours d'épreuve, les tentations ont cessé subitement. Et notre Seigneur est apparu à Sainte Catherine de Sienne. Et aussitôt, Sainte Catherine lui dit, « Seigneur, où étiez-vous quand mon cœur était si tourmenté ?» Et notre Seigneur lui répond, « J'étais au milieu de ton cœur, agissant en toi et ne permettant que tu sois attaqué de l'extérieur, par les démons, que dans la mesure où c'était utile pour ton salut. Mon plaisir n'est pas dans les souffrances des justes, mais dans leur volonté de porter courageusement ces souffrances. » Et ça explique bien toutes nos épreuves. Notre Seigneur est toujours là, agissant en nous, même si on ne s'en rend pas compte, pour nous soutenir, pour nous attirer à lui. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, la deuxième manifestation, cette bonté de notre Seigneur, est dans sa prédication incessante, pour montrer la voie du ciel. Notre Seigneur prêchait il y a 2000 ans par sa propre parole, il s'est incarné pour cela, mais il nous prêche aujourd'hui par la voix de l'Église, par la voix des prêtres. Et nous voyons que notre Seigneur ne perd pas une occasion pour éclairer les âmes, pour chercher à les guérir de leurs erreurs. Il observe l'orgueil des hommes dans ce petit banquet, et aussitôt il cherche à les guérir en leur montrant l'importance de l'humilité. Et pour la guérison de l'hydropique, il va même jusqu'à lire dans les pensées des cœurs, des parisiens. Les parisiens n'ont rien dit. Ils ne font que regarder notre Seigneur. Notre Seigneur voit dans leurs pensées qu'ils ont une vision déformée des commandements de Dieu, et notamment de ce commandement du sabbat. Donc pour les pharisiens, c'était l'une des lois les plus sacrées, et pour eux, elle était si sacrée qu'on ne pouvait rien faire. Et notamment, ils ne pouvaient pas guérir ce pauvre hydropique. Alors notre Seigneur cherche à les détromper, à leur montrer que la loi de Dieu est avant tout une loi de charité, une loi de bonté. Et il le montre même en faisant ce miracle. Il cherche à les guérir de leur ignorance. Et saint Jean Chrysostome fait remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ continue de prêcher même face à l'opposition des pharisiens, même face à leur incompréhension, même face à leur aveuglement. Il cherche sans cesse à répandre le bien malgré le mal. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais il cherche à vaincre le mal par le bien, par une prédication incessante. Et si les pharisiens ne se sont pas corrigés, s'ils ont fini par crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, bien ce n'est pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas tout tenté pour les guérir de leur aveuglement, pour les guérir de leurs erreurs. Il a multiplié les miracles, il a multiplié les prédications, il a multiplié tous les arguments qu'il leur a donnés pour les détromper. Et pourtant, les pharisiens ont continué de rester fermés à la vérité. Et c'est là quelque chose de très important, chers fidèles, de ne pas nous aigrir face au mal. Et notamment, quand on fait le bien, quand on se heurte à l'incompréhension, à l'ingratitude des gens, du prochain, cela arrive parfois, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas s'aigrir. La véritable charité se montre surtout quand elle continue de faire le bien, même envers ceux qui sont ingrats, même envers ceux qui nous persécutent, même envers ceux qui nous haïssent, même s'il y en a. C'est là où se manifeste vraiment la charité. Et on le voit bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le pardon qu'il demande pour ses bourreaux, pour ceux qui le crucifient. Notre Seigneur ne rend pas le mal pour le mal, mais il rend le bien pour le mal. Il cherche sans cesse à faire le bien. Et nous devons l'imiter. Et c'est difficile. C'est difficile. Alors, pour y arriver, il faut sans cesse contempler notre Seigneur, contempler sa bonté et le prier de pouvoir l'imiter. Et justement, en conclusion, chers fidèles, est-ce que nous faisons un peu d'oraison tous les jours? C'est cela quelque chose de très important dans notre vie. Faire 10 minutes d'oraison, c'est possible pour tout le monde. Ça peut être parfois un peu difficile de prendre le temps nécessaire, mais si on a un peu de volonté, on y arrive toujours. Bon, d'ailleurs, si on regarde un peu derrière nous, dans nos journées, on arrive toujours à se distraire pendant 10 minutes. Là, on n'a jamais aucune difficulté pour se trouver quelques 10 minutes pour faire quelque chose d'agréable. Là, aucun obstacle. Mais quand il s'agit de faire 10 minutes d'oraison, quelque chose de si important pour notre vie spirituelle, contempler la bonté de Dieu pendant 10 minutes, alors là, ça devient beaucoup plus difficile. On s'invente beaucoup de prétextes. Et pourtant, cela est si utile pour nous. Pourtant, Dieu a tant fait pour nous. Alors, simplement, lui parler cœur à cœur pendant 10 minutes, contempler tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce trop demandé? Est-ce trop demandé de la part de Dieu? Et ensuite, méditons notre chapelet quotidien. Ne le disons pas d'une manière machinale, mais regardons les mystères encore et encore. Les saints approfondissaient sans cesse ces mystères du rosaire parce que il y a quelque chose d'infini dans chacun d'entre eux. On peut toujours contempler quelque chose de nouveau, contempler quelque chose de plus grand, approfondir cette bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste dans ces mystères. On ne se lâche jamais quand on médite comme il faut notre chapelet. Alors demandons ces grâces-là, grâce de l'oraison, grâce de méditer notre chapelet quotidien à Notre-Dame du Saint-Rosaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.